Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de ZAD. Un peu de grève. Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un gros sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol, la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir, il est 19h05, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu 102.2 et c'est l'heure du Canu Info. Alors, pour commencer, et ben comme chaque semaine depuis des mois, on va vous parler du mouvement social et vous faire un petit bilan partiel parce qu'il se passe tellement de choses, de cette interview du Sbeul, de ces casserolades qu'il y a à Lyon et partout en France jusqu'à La Réunion.
Et aujourd'hui, ça a bien sbeulé à Lyon et au local ensuite, puisqu'on était à Lyon. Et ben on va parler d'une action contre la vie chère qui a eu lieu à Carrefour le 10 mai, donc c'était il y a quelques jours.
C'était avant-hier, ouais. Et puis du côté du National, vous en avez peut-être entendu parler ou pas, mais on va y revenir sur la démission du maire de Saint-Brévin et de cette extrême droite qui jubile alors que le gouvernement cible le mouvement social.
Et en France, il n'y a pas que des fachos, il y a aussi des droitards et il y en a qui ont proposé un nouveau délit d'occupation des universités à l'Assemblée Nationale.
Et puis, on vous en parle aussi depuis un petit moment, puis ça ne va pas s'arrêter. Vous savez, de ces fameux Jeux Olympiques 2024, hein, et on a
toujours
dit,
ça va s'arrêter.
Pas de retrait, pas de JO. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est 3000 logements dans 12 cités universitaires qui ont été réquisitionnés.
Absolument. Et puis ensuite, les JO, c'est pas top pour l'écologie, mais il y a d'autres choses qui sont pas top du tout. Et on vous parlera de Volvic. Vous savez, c'est en Auvergne où Danone pompe à fond de l'eau malgré la pénurie actuelle d'eau dans les nappes.
Et puis, violence policière, la justice détermine qu'un fauteuil roulant n'est pas une arme.
Bravo les champions. Et puis évidemment, on vous parlera de notre nouvelle rubrique animaux, avec ce soir deux petits animaux à l'honneur, puisque l'un d'eux est un chacal doré et l'autre...
Un orque.
Et ensuite, on vous fera le traditionnel agenda, pour dire quoi faire cette semaine.
Et oui, bonne écoute sur le Canu Info.
Bonne écoute.
Canu Info.
Partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Rubrique Crève.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte.
Ah, alors on pensait passer un son de casserole, mais c'est vrai que je ne l'ai pas réécouté avant, non, mais sachez qu'en tout cas...
un petit bug de platine, mais on s'adapte.
Le cœur y est, c'était en tout cas...
Je rejoue, et ça marche avec l'autre platine.
Et les sons que vous entendez là maintenant, c'est les sons pris lundi, parce que lundi c'était quoi? C'était le 8 mai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand même, Lyon, dans l'interview du Zbeul, a gagné 69 points. 69 points, c'est pas rien. Et pourquoi? C'est grâce à ces casseroles. Il y a eu plus de 5000 personnes pour accueillir le convoi présidentiel. Malgré l'interdiction, il y a une manifestation très dense, des barricades sur le parcours. Et alors, pour vous dire, on a gagné un point de chahut, deux points d'action créative. Ça, je pense, c'est big up à la mairie du 3e. Ça a été multiplié par 6 à cause qu'il y avait Macron, par 3 parce qu'il y avait des ministres, par un parce qu'il y avait un secrétaire d'État, et encore par 3 à cause qu'il y avait un ministre. Et tout ça, ça a annulé une visite de Macron ensuite à cause de la mairie du 3e arrondissement. Et donc voilà, merci, bravo. Et tout ça, c'était lundi. Et ça ne s'arrête pas depuis, c'est fou, ces casserolades. J'ai passé une heure à essayer de charger sur Internet toutes les casserolades qu'il y a eu juste aujourd'hui en France, quoi. C'est délirant. Du coup, à Lyon,
partout,
c'est au tour du ministre de la Santé, Brown, ainsi que plusieurs autres ministres internationaux qui sont venus à Lyon aujourd'hui pour l'inauguration du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paf, 200 personnes et une fanfare. Les événements extérieurs annulés grâce au bing-blong toujours présent. Tous les événements prévus ont été perturbés. Ils ont même dû fermer les stores du rez-de-chaussée. Et ça ne s'arrête pas à Lyon, parce qu'en milieu de journée, qu'est-ce qu'il devait avoir? Il devait avoir à 15h Wauquiez à Villeurbanne. Et Wauquiez, visiblement, il n'aime pas trop les casseroles parce qu'il a fini par annuler sa visite. On peut un peu dire casserole 8000, Wauquiez 0. Accueil casserolade ce matin à Bayonne pour Éric Dupond-Moretti, planqué derrière une très forte protection policière. Environ 70 personnes armées de leur dispositif sonore portatif, hein, c'est comme ça qu'on dit en France les casseroles. Malgré les difficultés à atteindre le tribunal, Dupond-Moretti privatise tout un quartier de Bayonne pour sa visite au tribunal. À chaque rue, CRS est bac en civil pour empêcher les manifestants d'approcher. Ah, alors attention là, pas de bruit de casserole, mais quand même, à Paris, Macron a visité le musée Picasso de Paris aujourd'hui, mais en secret. Ce n'était pas à l'ordre du jour et l'Élysée n'a pas voulu le confirmer. Et du coup, d'après l'interview du Zbeul, c'est quand même une grosse victoire due à chacun, chacune.
Oui, le secret, c'est sûr,
le
c'est une
président
nationale.
Ne publie même plus son agenda. Mais grosse casserolade.
Il va au musée parce que plus personne ne peut le voir, en peinture.
En peinture.
Ouais, c'est les grosses têtes ici, ça y va.
À Dunkerque aujourd'hui, Dunkerque en état de siège, 4 drones policiers ont été utilisés pour surveiller la visite d'Emmanuel Macron. Des tireurs d'élite ont été également positionnés sur les toits, selon les infos de la Voix du Nord. Hein, la Voix du Nord. Pléthore de véhicules de police pour le convoi présidentiel, où Macron s'est rendu cet après-midi en compagnon de 5 ministres. Alors évidemment, des casseroles les ont attendus. Il faut savoir qu'il y avait quand même plus de 1500 policiers. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils prévoient? Et des groupes électrogènes, hein, pour faire face aux coupures.
Oui.
Le centre-ville était barricadé. Et c'est un dispositif qui est un peu du jamais vu à Dunkerque pour une visite présidentielle. Bravo aux casserolades. Et finalement, il y a aussi la réunion. En réunion, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième journée de la visite de 3 jours d'Elisabeth Borne, notre première ministre là-bas, qui tient sa ligne et marque une nouvelle fois le coup. Puisqu'en déplacement 3 jours sur l'île, elle a une nouvelle fois été confrontée à la réalité et a dû annuler sa déambulation sur le marché Saint-Pierre. Alors là, il faut savoir que les manifestants, ils n'étaient pas munis de casseroles pour éviter d'être repérés, mais qu'ils ont scandé des...
Maintenant, on te repère avec une casserole.
Ils ont scandé des chants et été repoussés par les gendarmes, mais quand même, la ministre, elle a annulé sa déambulation sur le marché de Saint-Pierre. Ça nous permet de vous dire juste un petit aparté. Imas Presse, qui est un journal local, a aussi dit qu'il arrêtait de faire le suivi d'Elisabeth Borne. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler correctement comme de nombreux journaux locaux sur place. En gros, c'est la première ministre qui choisit quelle presse a le droit d'être là. Et ça a été hier, ça s'est refait aujourd'hui. Et du coup, en gros, il y a très très peu de journalistes qui peuvent suivre la tournée de la première ministre. Ce qui fait que plusieurs journaux décident de ne plus la suivre et de ne plus le relayer, dont Imas Presse, qui déplore du coup le fait de ne plus pouvoir travailler avec les ministres. Mais
désolé,
c'est pas fini, c'est juste que j'avais mal classé tout, mais quand même pour vous dire, on revient en métropole pour cette dernière casserolade à Salon de Provence. Et donc par peur d'une nouvelle casserolade, Renaud Muselier, président du Conseil régional de Provence Alpes-Côte d'Azur. Ce défi, les renonces à assister à la constitutive de son hôpital privé à Salon de Provence. Encore une victoire. Moi, je trouve ça ouf hein, de se rendre compte de ces trucs des casserolades et à quel point, en vrai, ça marque la vie politique actuellement. Ça permet de se rassembler. Et du coup, on a un peu envie de vous dire que les deux prochains gros rendez-vous, alors c'est pas à Lyon ce week-end, mais quand même, il y a un stand SNU, vous savez, c'est le service national universel qui débarque à Strasbourg, qui est déjà attendu par des casseroles. Tout comme lundi prochain, le 15 mai, qu'est-ce qui se passe ? Macron va recevoir 200 patrons de grandes entreprises du monde au château de Versailles. On a un peu l'impression que c'est un appel, vraiment, à aller au château de Versailles lundi 15 mai.
Et oui, et d'ailleurs, il faudrait quand même qu'on se tienne au courant de ce qui se passera pour le SNU. Peut-être que Radio Canu ira ploter des micros, parce que je crois que c'est fin mai à Lyon que la tournée du SNU vient, et c'est pas impossible que des personnes se munissent de dispositifs portatifs pour essayer de s'enrôler dans l'armée. En attendant, on passe la rubrique nationale. Non, on passe pas du tout là.
On reste un peu à la rubrique locale, parce que alors c'est pas des casseroles, mais quand même, il y a une chouette action contre la vie chère au carrefour du gratte-ciel ce mercredi. Et on avait un peu envie de vous lire le communiqué qui est sorti suite à cette action. Nous, syndicalistes, militants, militantes, étudiants, étudiantes, précaires, chômeureuses, avons mené, ce mercredi 10 mai, une action d'autoréduction au carrefour de gratte-ciel. Dans le cadre du mouvement social en cours et de la hausse généralisée des prix, cette action a pour objectif de lutter contre la réforme des retraites et l'inflation galopante. L'autoréduction consiste à s'approprier collectivement des biens de première nécessité pour les redistribuer ensuite solidairement. Des caddies ont été remplis de produits alimentaires et hygiéniques et les caisses ont été bloquées afin d'entamer une négociation avec la direction du magasin. Il ne dépendait que de Carrefour de nous laisser sortir avec la marchandise. Après une heure de blocage des caisses dans une ambiance bon enfant et malgré le soutien de beaucoup de clients et clientes sur place, la négociation a tourné court. Le directeur, en bon patron, a préféré faire recours aux forces de l'ordre plutôt que de nous laisser partir ne serait-ce qu'avec un paquet de pâtes. Encore une fois, la grande distribution s'est illustrée par son inhumanité et par son opposition à toute forme de solidarité qui n'engrange pas de profit. Honte au groupe Carrefour et à sa direction. Le mouvement social contre la réforme des retraites s'inscrit indéniablement dans un contexte plus général de casse sociale de la part du gouvernement macroniste. Loi Carbachon-Berger, dite loi anti-squat, réforme de l'assurance chômage, expérimentation sur le RSA, loi Darmanin sur l'immigration. De plus en plus de personnes sont touchées par la précarité, peinent à payer leur loyer, leurs factures d'eau et d'électricité et subissent l'inflation de plein fouet. Les produits alimentaires connaissent une inflation à la hausse de 15%. Pendant ce temps-là, les grandes enseignes de l'alimentation font toujours plus de profits. Carrefour annonçait en février dernier avoir réalisé un chiffre d'affaires de 90,8 milliards d'euros en 2022. Soit une hausse de 8,5 milliards. En fait, ça me rend ouf ces chiffres. De 8,5 milliards par rapport aux années précédentes. L'inflation est en réalité directement liée à l'augmentation des marges de profit du groupe. Et ça, vraiment, oui, je trouve qu'on l'entend jamais quand on parle de l'inflation depuis des mois. Ça rend taré. Ces produits sont réalisés à la solde des conditions de travail des employés, premiers et premières de cordée pendant la crise du Covid, aujourd'hui oubliés de l'augmentation salariale. En effet, depuis plusieurs mois, les employés de nombreux magasins se mobilisent pour dénoncer les conditions de travail. Des salariés de l'hypermarché Carrefour de Sainte-Clotilde à La Réunion sont en grève illimitée depuis le 21 avril pour protester contre des revalorisations salariales insatisfaisantes dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il y a quelques mois, des salariés de l'hypermarché Petite Forêt et du Monoprix Picpus à Paris dénonçaient des conditions de travail de plus en plus pénibles en caisse et en magasin, entraînant une hausse des arrêts maladie, des démissions ou des abandons de poste. Face à ces mobilisations, la direction a pour seule réponse la répression et assigne en justice les grévistes et les actions solidaires pour exiger des amendes et criminaliser les mobilisations. Notons d'ailleurs que ce secteur est largement féminisé, 90% des postes d'encaissement sont occupés par des femmes, dont une grande partie en temps partiel, précarisant toujours plus les femmes aux minorités de genre. Ces profits sont aussi réalisés au détriment des producteurs et productrices soumises aux lois du marché de l'agroalimentaire. Tout cela avec la complicité du gouvernement qui ne met rien en place pour lutter contre la hausse des prix et la précarisation des ménages. À titre d'exemple, le gouvernement promettait un panier anti-inflation permettant de bloquer les prix de certaines denrées de première nécessité. Mais les négociations ayant échoué, chaque enseigne fait aujourd'hui la promotion de ses propres produits, argument marketing plus qu'un réel gel des prix.
Et tout ça pour vous dire aussi que quand même, il y a eu toute cette mobilisation. Moi, je suis hyper contente que les autoréductions reviennent. Ça a été Absolument. Une arme qui a été beaucoup utilisée dans les années 70 et qui a été un peu utilisée, hein, on se souvient, pendant le CPE et un peu marginalement, mais que ce soit des pratiques qui reprennent un peu plus régulièrement et qu'on rappelle que c'est ça, à un moment donné, ben, faut aller servir parce que c'est aussi comme ça qu'on lutte contre ces marges indécentes et que c'est soutenu. Ben, je sais pas, moi, ça me fait plaisir.
Comme disait Dario Fo, qui a fait une pièce de théâtre à propos des autoréductions, faut pas payer.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on va aller du côté du Saint-Brévin. Saint-Brévin qui est devenu l'épicentre de manifestations xénophobes de l'extrême droite contre l'installation d'un centre d'accueil de réfugiés. Ces attaques ont été jusqu'à la démission du maire, célébrée par la fachosphère. De son côté, le gouvernement en a profité pour fustiger l'extrémisme des deux côtés et poursuivre son offensive autoritaire. On va revenir sur ces trucs des deux côtés. Alors, attendez, voilà. La commune de Saint-Brévin-les-Pins accueille depuis 2016 un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est ce qu'on appelle un CADA. Mais depuis l'installation du CADA près d'une école élémentaire, l'extrême droite a multiplié les manifestations et les attaques xénophobes, lançant ces derniers mois une véritable campagne raciste dans la petite ville du Pays de la Loire. À partir de l'automne 2022, des manifestations ont en effet été organisées dans la ville par des organisations et des groupuscules d'extrême droite contre l'installation du centre d'accueil. Le Rassemblement National, l'antenne locale du parti d'Éric Zemmour, vous savez, c'est le parti Reconquête, là, ainsi que le parti de Florian Philippot, les Patriotes, ont pris une part active dans cette campagne xénophobe. Ils n'ont cependant pas été les seuls. Toute une série de groupuscules ultranationalistes, comme les intégristes catholiques de Civitas, les militants royalistes de l'Action française, ainsi que des militants historiques des milieux fascistes lyonnais, comme Christian Bouchet, y ont également pris part. Cette campagne de l'extrême droite a atteint son expression la plus violente dans la nuit du 22 mars par un incendie criminel contre le domicile du maire de la ville, Yannick Morez. En pleine nuit, les deux voitures du maire ont été incendiées et le feu a atteint son domicile où il se trouvait avec sa famille. Selon le parquet, des ouvriers se rendant sur leur lieu de travail ont heureusement alerté le maire en sonnant à sa porte, évitant ainsi un drame de justesse. Après des mois de mobilisation xénophobe et de menaces de l'extrême droite, l'origine de l'attaque fait peu de doute. Le maire a finalement annoncé ce mardi 9 mai sa décision de démissionner de son poste et de partir de la ville, craignant pour lui et sa famille. Très rapidement, comme le rapporte Le Monde, l'extrême droite a célébré cette annonce comme une victoire. Depuis des mois, Yannick Morez alertait en effet sur la multiplication des menaces et des intimidations que lui et des soutiens locaux du centre d'accueil subissaient. Pourtant, les habitants de la commune soutiennent très majoritairement le maire et la présence du centre. La contestation de son installation vient donc surtout de la campagne menée par l'extrême droite. Comme le maire l'a expliqué à l'AFP fin mars, cela fait 7 ans que la ville accueille le centre et ses 400 pensionnaires, sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre problème. Alors que le maire vient d'annoncer sa démission et l'attribue notamment au manque de soutien de la part de l'État et du gouvernement, plusieurs figures du gouvernement et de la Macronie se sont empressées d'aller exprimer leur soutien et ont profité pour poursuivre leur offensive contre le mouvement social. Il faut quand même savoir que Emmanuel Macron il a déclaré dans un tweet « Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, et contre sa famille sont indignes, sans nommer à aucun moment l'extrême droite, pourtant responsable jamais... direct de ces attaques. »
Sauf qu'il n'avait jamais réagi depuis quand ça a brûlé, il n'a rien dit alors que...
C'est ça, et du coup, Borne, là, qui est à la Réunion, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à France Info, donc pareil, hein. Cela montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays et que l'extrémisme vaut des deux côtés. En refusant ainsi de désigner explicitement l'extrême droite, la première ministre cherche à rassembler sous un même terme vague l'extrême droite et l'extrême gauche. Il faut savoir en plus qu'on ne parle même pas d'extrême droite, on parle d'ultra-droite. Hein, quand ils arrivent à prononcer ce mot-là,
oui,
ils n'arrivent même plus à prononcer le mot extrême droite. mettant de fait toute la mobilisation expression de colère contre le gouvernement à égalité avec les attaques racistes et la violence de l'extrême droite. C'est vraiment la même chose du côté d'Aurore Berger, qui est interrogée sur ce sujet lors de la matinale de France Inter, a ainsi expliqué que la question est plus large, c'est celle de la production de nos élus, ces insultes et menaces que la quasi-totalité des élus de la République reçoivent. Mettant sur un même pied d'égalité les attaques racistes de l'extrême droite à Saint-Brévin et les phénomènes de contestation contre le gouvernement. Ce faisant, la députée cherche avec cette déclaration à assimiler l'attaque xénophobe subie par le maire avec la détestation légitime des élus macronistes qui s'expriment dans le cadre du mouvement actuel par des casserolades et des comités d'accueil de ministres et de figures. Enfin, vraiment, on rappelle que ça n'a rien à voir,
oui,
c'est
non,
pas
compare,
la même chose.
On compare un tag qui dit Macron explosion avec un attentat fasciste, quoi.
Derrière son soutien hypocrite au maire de la commune de Saint-Brévin, le gouvernement et Macron instrumentalisent cette attaque de l'extrême droite et ses conséquences pour tenter toujours plus de toujours plus criminaliser le mouvement social et de parfaire leur dispositif répressif. C'est la même logique et la même stratégie que sous-tendent les récentes déclarations de Darmanin concernant l'interdiction des actions de l'ultra-droite après la manifestation néo-nazie du 6 mai dernier. Encore une fois, le gouvernement utilise la situation pour poursuivre son offensive autoritaire contre le mouvement social, qui s'est exprimé dans la menace de dissolution de l'organisation écologiste des soulèvements de la Terre, et plus récemment, dans l'interdiction de nombreuses casserolades. Pourtant, que ce soit la manifestation néo-nazie du 6 mai dernier, ou pour les mobilisations et les attaques xénophobes de l'extrême droite de Saint-Brévin, les deux poids, deux mesures du gouvernement sautent aux yeux. Ce dernier est en effet prompt à réprimer les manifestations contre les réformes des retraites, à menacer de couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme ou interdire les casserolades. Je me répète un peu. Mais voilà, du coup, pour vous dire qu'en parallèle de ces agressions fascistes, on assiste aussi à une montée des violences visant des militants écologistes et des journalistes menés par des lobbies de l'agro-industriel, là aussi dans l'indifférence quasi totale. Le 24 novembre dernier, c'est le militant anti-bassine Valentin Jandet qui était passé à tabac chez lui en raison de son engagement. Il a dû être hospitalisé. Le 30 janvier, c'est Paul François, agriculteur charentais victime d'une intoxication grave par un pesticide de Monsanto et figure de la lutte contre cette firme qui a été ligotée et tabassée à son domicile par trois individus, justifiant leur geste. On en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé. Le 24 mars, c'est le journaliste de RKB Morgan Large qui a été victime pour la seconde fois d'un acte de sabotage sur sa voiture, sa roue ayant été dévissée. Ce geste qui aurait pu être mortel intervient après un acte similaire en 2021, des menaces répétées et l'empoisonnement de son chien. Pour chacune de ces affaires, personne n'a été arrêté et les coupables courent toujours. On ne doute pourtant pas du ramdam médiatique et des moyens policiers délirants qui seraient déployés si les mêmes types d'actions étaient menées par des membres de la gauche ou de l'écologie radicale contre des politiques, des patrons ou des journalistes. C'est que dans un contexte de défiance totale à son encontre, le pouvoir n'a plus d'autre option que de reprendre les thématiques de l'extrême droite pour espérer se sauver. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la loi asile-immigration, l'opération Wambushu à Mayotte, ou encore les flatteries que la Macronie ne cesse d'envoyer aux députés RN, députés qui, à l'Assemblée nationale, sont les seuls à avoir refusé de rendre hommage au maire de Saint-Brévin. Mais en fait, moi, je trouve ça ouf encore. Ouais. Alors que le pouvoir devient de plus en plus absurde et autoritaire, que le moindre blocage de lycée est violemment réprimé et qu'on interdit les casserolades dans les rues, 500 nervis ouvertement fascistes pouvaient tranquillement défiler samedi dans les rues de Paris. Bah voilà, du coup, ce qu'on vous a lu, c'est des bouts d'un collectif.
Marine Le Pen dans cette manifestation néo-nazie.
T'as dit quoi ?
Il y avait évidemment des proches de Marine Le Pen dans cette manifestation néo-nazie. Donc, ça s'étonnera pas qu'un ministre de l'Intérieur fasciste et que le gouvernement qui le suit ne dise pas grand-chose.
Parce qu'on vous a lu, c'était des bouts du collectif Dispatch, des tweets qu'on a trouvés sur Internet, des bouts de communautés de révolution permanente. Et du coup, merci aux personnes qui écrivent des communiqués, qui font ces liens-là. Ces liens-là qu'on espérait voir plus présents dans les médias dominants.
Absolument. Et du coup, on continue sur, malheureusement sur ce thème de la répression, ou en tout cas des tentatives un peu répressives, hein, en parlant des universités. Donc, bon, c'est un grand classique, hein, le fait de s'attaquer aux universités pour essayer d'abaisser le rapport de force. Alors, pour d'abord situer ça, on peut quand même rappeler que le contexte qui permet l'occupation des universités, il a beaucoup changé lors des dernières années, puisque désormais, souvent, les universités, en fait, ferment assez immédiatement. C'est ce qui se passe notamment beaucoup dans les universités lyonnaises. Ferment quand les étudiants se mettent à bloquer. Ils ferment administrativement les universités, ce qui, en fait, ruine une partie de l'objectif du blocage, qui est la capacité d'avoir un lieu pour s'organiser, penser le monde politiquement, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui a pas mal évolué, c'est que Il existe en France ce qu'on appelle la franchise universitaire, c'est-à-dire que la police n'a théoriquement pas le droit de mettre les pieds sur un campus universitaire si la direction, donc en l'occurrence souvent la présidence des universités, n'en a pas fait la demande. Ce qui a finalement en gros empêché la police, en particulier les CRS, de rentrer sur les campus policiers pendant très 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 longtemps. A priori, la première fois où la franchise universitaire a été volontairement rompue par des prisons d'université, c'est au moment du CPE. Et donc c'était en 2006, donc c'est relativement récent, et aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, hein, y compris à Lyon, y compris par des élus universitaires censés venir de la gauche, de faire intervenir la police sur les universitaires, alors que la loi aujourd'hui en protège toujours. Mais il y a des gens qui ont envie de changer ça, puisque ce sont à nouveau... une proposition de loi, alors on verra si elle aboutit, hein, qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par une députée, Les Républicains, hein, Anne-Laure Blin, co-signée par 25 de ses petits camarades Les Républicains, et qui est intitulée « Mettre fin à l'occupation illicite des locaux universitaires ». Donc cette proposition, elle vise en fait à faire un délit, hein, à nouveau rendre plus réprimer plus facilement la pratique étudiante d'occuper, hein, qui est un grand classique pour s'organiser et contester les politiques gouvernementales. Alors c'est pas la première fois, hein, que ce genre de proposition arrive, on peut s'en douter. Déjà quelques mois en fait après la mobilisation contre la réforme des retraites précédente, hein, donc l'hiver 2019-2020, le Sénat avait ajouté un abonnement soutenu par le gouvernement au projet de loi de programmation de la recherche, la LPR, et cet amendement précisait qu'un délit punissait d'un an de prison et 7 500 € d'amende le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. Une peine alourdie en commission mixte paritaire à 3 ans et 45 000 € d'amende, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc c'était une première tentative il y a 3 ans, en décembre 2020. Et pour contourner la décision du constitutionnel sur les occupations universitaires, les députés, les Républicains veulent en fait cette fois uniquement faire une petite modification sur un amendement du code pénal. Et en fait, celui-ci condamne déjà d'un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende le fait de, je cite, pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Donc ça existe déjà. Et en fait, les députés, ils veulent changer un petit mot vachement important. C'est le mot scolaire, parce qu'en fait, le mot scolaire, il s'applique pas aux universités à ce stade. Et donc, cet amendement déjà dangereux, hein, il... empêche les blocages de lycées, de collèges, d'écoles, mais pas celui des universités. Et en supprimant ce petit mot, eh bien, c'est tout l'objectif qu'il y a derrière. Et donc, il est tout à fait possible qu'ils obtiennent, cette fois encore, hein, ces parlementaires républicains, le soutien du gouvernement, comme il y a 2 ans. Alors concrètement, ça interdit pas forcément totalement le blocage, mais ça veut dire, par exemple, que si vous êtes étudiant à Lyon 1 et que vous voulez aller soutenir l'organisation, par exemple, aller juste à une activité, par exemple, comme une conférence qui serait donnée pendant un blocus à Lyon 2, ou inversement, si vous êtes un étudiant de Lyon 3 et vous voulez vous rendre à une action de confection de banderoles qui se tiendrait à l'ENS occupé, eh bien, vous seriez là. Vraiment, ouais. Donc cette répression, on la retrouve partout. On espère évidemment que tout ça ne passera pas, mais c'est quand même très dans la couleur du moment.
Et oui, la répression est partout. Et la répression, c'est sûr qu'elle va s'abattre aussi autour des JO Paris 2024. Pourquoi ? Parce que ça y est, plus de 3000 logements étudiants vont être réquisitionnés en Île-de-France afin d'accueillir le personnel de l'événement, a indiqué hier le ministère des Sports à l'AFP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'après l'AFP, le recensement effectué a d'ores et déjà permis d'identifier près de 18 000 places disponibles pendant les JO, dont environ 3 200 dans les Crous. Alors, on rappelle que ces places n'étaient pas disponibles, hein, des personnes y habitent. Et donc, il s'agit de loger des forces de sécurité, des soignants, des secouristes, des chauffeurs d'autobus ou encore des agents de sécurité privés. Il est fort à parier qu'il y aura plus de forces de sécurité et d'agents de sécurité privés que de soignants. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, les étudiants aussi CTU, bah, ils ont paniqué, hein, quand on leur a dit ça, c'est quand même 3200 places où on leur demande en gros de ne plus être chez eux à partir du 30 juin. Alors le ministère a précisé que tous les étudiants mettant leur chambre à disposition pendant les JO qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024 seront assurés de retrouver un logement lors de la rentrée universitaire en septembre. Pour ceux qui prévoient de rester en région parisienne pendant cette période, ils se verront proposer un relogement dans une autre résidence. Mais moi, en lisant un peu, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils doivent partir le 30 juin. Et c'est que ceux qui ont un renouvellement sûr en 2024 qui auront un relogement pendant l'été. Et qu'ils commencent à se dire « Ah merde, les relogements ne sont plus assurés. » Et du coup, le fait d'avoir une place en 2024 n'est pas assuré non plus. Et c'est ça qui inquiète beaucoup les étudiants et les syndicats étudiants. Ce qui fait que, alors effectivement, c'est vrai ce qu'ils disent, si voilà, on a une place pour la rentrée 2024. Du coup, l'UNEF se dit inquiète sur la capacité des Crous à ne pas créer une situation défavorable pour les résidents des établissements. Le syndicat étudiant a réclamé dans un communiqué que les réquisitions se fassent uniquement sur les logements où les étudiants sont partis volontairement et sans aucune réquisition qui forcerait l'expulsion ou le déménagement. Il demande également à ce que l'État assure financièrement la location des chambres Crous afin de ne pas creuser davantage le déficit de ses pouvoirs publics, autre problème, et d'y déplorer le manque de soutien du gouvernement pour la construction des nouvelles résidences étudiantes.
Ouais, pas de soutien pour grand-chose, et ça continue quoi. En tout cas, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vous parler un peu d'écologie, parce que probablement que ça va nous permettre de vous donner de bonnes nouvelles, mais pas du tout, car en fait, il y a encore une nouvelle info dont on ne m'avait pas donné la primeur. Tu me fais un signe ?
Non.
Pas du tout. Eh bien, je lance le jingle écologie. Écoutez, c'est une émission bien conçue. On va parler d'écologie.
À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule ! Yeah.
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et oui, sur Radio Canu, faites aimer les pesticides à vos enfants, mais prenez une bonne décision tout de suite, essayez de ne pas les faire trop aimer l'eau, parce qu'il y en aura bientôt plus beaucoup. Alors comme vous le savez sans doute, hein, c'est déjà un petit peu la cata partout en Europe, en particulier en Espagne, mais aussi en France, hein, par exemple, à Lyon, on est déjà en vigilance par rapport à la sécheresse, alors que, rappelons-le, nous ne sommes que début mai, donc c'est particulièrement inquiétant, et puis c'est déjà la pénurie d'eau un petit peu partout dans le pays, ça risque d'être quand même un vrai problème en termes de sécheresse cet été, ça risque aussi d'être un problème évidemment pas seulement pour nous, pour boire, mais bien entendu aussi pour tout ce qui relève de l'alimentation.
Et du coup fait pour manger finalement.
De pouvoir se nourrir. Mais rassurez-vous, vous pourrez toujours acheter de la flotte en bouteille de plastique, puisque depuis la semaine dernière, on sait que Volvic va pas faire grand-chose par rapport à la pénurie d'eau. En effet, 44 communes du Puy-de-Dôme, hein, donc c'est juste à côté d'ici, sont visées par un arrêté préfectoral de restriction sur l'eau potable, hein, donc qui vise à éviter les risques de pénurie pour cet été. Et donc, il y a interdiction jusqu'à fin juin de laver sa voiture, interdiction qu'on pourrait maintenir toute l'année, remplir sa piscine, interdiction qu'on pourrait maintenir toute l'année, ou arroser son jardin, ça des fois c'est utile pour les tomates, entre 10h et 18h. C'est bien de ne pas le faire en plein soleil. Les entreprises du territoire sont également tenues de diminuer d'un quart, 25%, hein, leur prélèvement sur le réseau. Donc c'est évidemment la conséquence la sécheresse durable un peu partout, une sécheresse hivernale en plus c'est particulier, et de la chute du débit de la source principale dans ce secteur qui s'appelle le Goulet, qui se situe sur la commune de Volvic, qui avant d'être une marque de flotte, est une très jolie commune. Pourtant, la Société des eaux de Volvic, la Sève, hein, qui est une filiale du groupe mondial Danone et qui embouteille plus d'un quart de l'eau de la nappe souterraine, n'est pas concernée par les restrictions. Curieusement, la raison officielle, c'est que les activités de Volvic n'ont pas d'impact sur le réseau d'eau potable, car en fait, elles sont effectuées en aval des sources, c'est-à-dire que avant que l'eau ne ressorte. C'est en tout cas ce qu'explique l'entreprise. C'est même en fait en solidarité avec les acteurs du territoire, dit la Sève, la Société des eaux de Volvic, qu'elle s'applique elle-même une baisse de 5% de ses autorisations de prélèvement. Donc c'est un petit peu comme on en parlait déjà tout à l'heure, je crois, hein, de ces supermarchés qui font des offres symboliques pour faire croire que les prix baissent et des promotions à la con. Et là, c'est une belle contribution à l'effort collectif hein, de la part de cette entreprise qui exporte par camion entier des bouteilles en plastique et revend une ressource souterraine qui devrait être un bien commun à peu près 100 à 300 fois plus cher que l'eau du robinet, alors que c'est strictement la même chose. Et ben, est-ce que c'est une belle action ? Pas vraiment. En fait, la Sève se borne à appliquer des mesures qu'elle a elle-même établies, dont son plan d'utilisation rationnelle de l'eau. Ça s'écrit PUR, c'est l'acronyme, c'est incroyable. Ce document non rendu public a été co-signé entre la Société des eaux de Volvic et la préfecture en septembre 2021 et engage l'entreprise à réduire son niveau maximum de prélèvement mensuel autorisé en cas d'alerte sécheresse. Alors cet engagement, il est jugé ridicule, notamment par Marc Saumureau, qui est le président de France de la FRAN, pardon, une société environnementale auvergnate. Il précise que la Sève a perdu des marchés, notamment au Japon, et ne produit déjà plus en fait le maximum d'eau qu'elle a le droit de pomper, donc ça lui, c'est pas du tout un effort. Et ces éléments sont confirmés par une commission d'enquête parlementaire de 2021 sur la mainmise des intérêts privés de l'eau, qui relevait à l'époque, cette commission d'enquête, que les volumes réellement utilisés sont en nette baisse de 2017 jusqu'à tomber à moins de 84% de ce qui était pris initialement. Dès lors, en fait, abaisser ce maximum, même de 10%, ne change strictement rien, puisqu'on comprendra bien que 84% est inférieur à 90%. Donc, si Danone peut s'exonérer en fait, des obligations touchant les eaux industrielles, hein, qui, on le rappelle, doivent baisser quand même de 25% leur prélèvement d'eau par la préfecture, c'est qu'en fait, elle sépare la nappe de Volvic, la préfecture, hein, en deux masses d'eau distinctes. Donc, les eaux de surface, ce sont celles qui alimentent le réseau d'eau potable avec lequel Danone n'estime n'avoir rien à voir, puisque l'eau potable, ce n'est pas leur problème, et la nappe profonde, là où l'entreprise en fait, exploite liquide. Si de fait les relations hydrologiques entre les deux zones ne sont pas pleinement établies hein, scientifiquement, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont étanches. Mais l'hydrosystème de la nappe est encore mal connu, et ce qui permet de ne pas vraiment conclure et de laisser Danone faire un peu ce qu'il veut. Début 2023, la publication d'une thèse de l'École des Mines, pour autant soutenue 10 ans avant, hein, normalement les thèses elles sont quasiment publiques dans la foulée, relevait des phénomènes d'interférence entre le pompage des forages d'eau minérale de la galerie du Goulet dans laquelle épuise l'eau potable. Donc en gros, globalement, peut-être il y a des liens, mais précisait que l'impact de ces pompages sur le débit de la galerie est très faible. Et puis la préfecture a bien lancé sa propre étude d'hydroécologie, mais les résultats ne seront connus que d'ici une à plusieurs années, c'est pas très très clair. En tout cas, le président de l'association Préva qui se bat pour une gestion durable de l'eau dit que c'est la même eau. Il dit qu'ils exploitent durablement la nappe jusqu'à dépasser sa capacité de génération, de régénération, pardon. Et si la Sève, donc la société des eaux de Volvic, échappe aux contraintes, hein, pour lui, c'est en raison de son poids économique local. 900 salariés, 200 intérimaires et sous-traitants qui vivent de l'eau de Volvic. Un peu plus nuancé, la présidente de France Nature Environnement 63 convient qu'on puisse s'interroger sur ce lien, même si pour elle, il ne faut pas focaliser sur Volvic, parce qu'en fait, c'est toute la région qui manque d'eau et que le problème est beaucoup plus large. Donc les tensions sur les usages industriels de l'eau ne sont pas vraiment nouvelles, on en a déjà parlé. On a un petit peu parlé récemment autour de ce qui peut se passer, par exemple, avec les bassines dans le Poitou-Charentes. En 2019, le préfet du Puy-de-Dôme, puisque ça ne se passait pas nouveau non plus d'ici, avait pris un arrêté cas de sécheresse qui exonérait l'ensemble des industriels des mesures d'économie. Une décision qui a été attaquée en justice par la France Nature Environnement 63, UFC Que Choisir et 3 autres associations, mais la justice n'a pas encore statué sur les efforts à faire par Volvic. Reste qu'en attendant d'en savoir plus sur les interactions entre les couches souterraines, Danone continue pour l'heure de produire de l'eau presque comme si de rien n'était. Et pour rebondir sur une information qu'on a eue aussi aujourd'hui, il y a eu le grand discours d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation de la France et un peu le futur de l'écologie et le fait qu'on va mettre des usines partout car c'est le futur. Alors peut-être qu'il y a des choses intéressantes à réindustrialiser, mais là-dedans il y a eu un discours particulièrement intéressant sur le fait qu'il a dit qu'il demandait ou qu'il va plutôt faire hein, au niveau de la France, hein, puisqu'on a vu que quand il décide de quelque chose plutôt c'est appliqué, qu'il fallait arrêter l'escalade écologiste. En gros, je ne sais plus quel terme qu'il a utilisé.
Il a dit mettre en pause, je crois.
Ouais, mettre en pause. Il a dit pendant 5 ans, on ne prendra plus de nouvelles mesures pour réchauffer la destruction de la biodiversité. Réchauffer, l'absus c'est intéressant, pour réduire la destruction de la biodiversité ou lutter contre le dérèglement climatique parce que, en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on irait un peu trop vite et qu'on ferait un peu trop de choses. Alors, pour vous donner une idée, quand même, on peut dire à peu près, en s'appuyant sur des sources scientifiques, que les efforts faits par la France en termes écologiques depuis des années sont quasiment nuls. Du coup, si on les arrête, ce sera complètement nul. Et alors que on n'a pas du tout des problèmes qui pointent de partout. Et donc on a ce discours évidemment complètement lunaire sur le. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, si on continue de faire des lois qui vont être plus restrictives pour détruire un peu moins notre planète et puis espérer de survivre quelques temps de plus. Eh bien, en fait, les universitaires vont pas vouloir s'installer, et donc il faut les sécuriser en leur garantissant de pouvoir produire du CO2 et polluer comme des porcs. Bref, on est encore bien parti aussi sur le plan écologique.
Oui, puis on rappelle quand même, pour revenir sur cette histoire de Volvic, qu'au-delà de est-ce que c'est la même nappe phréatique ou pas, en fait c'est le même endroit, et ça parle de la privatisation de l'eau, et juste ça en fait, je veux dire qu'on prouve ou non que ce soit le même lien, ça veut dire qu'il y a la moitié de l'eau qui est là, qui visiblement est encore là puisqu'elle peut l'être pompée, mais qui n'est pas accessible au commun, ouais. Et que ça c'est un vrai vrai problème, et que c'est peut-être aussi ça à interroger plus fondamentalement, là, cette privatisation des biens. Et finalement, on se souvient de la phrase d'Emmanuel Macron qui nous avait dit son deuxième mandat sera écologique ou ne sera pas, et visiblement
ça va être pas. Mais effectivement, on peut quand même s'interroger sincèrement sur le fait que on puisse privatiser un bien commun comme l'eau sous prétexte qu'on possède le terrain au-dessus de la source, et ensuite une usine de flotte, ça n'existe pas, on ne fabrique pas d'eau, hein, ce sont des usines de plastique, c'est dégueulasse. Et tout de suite, des bonnes nouvelles à nouveau. Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police suicide, la police assassine. Qu'est-ce qu'on est proche? Nous sommes la police. La police mutile.
Violence policière.
Et alors, violence policière, mais plutôt des bonnes nouvelles pour une fois, puisque la justice a déterminé, tenez-vous bien, qu'un fauteuil roulant n'est pas une arme. Et oui, c'est un fauteuil roulant. Militante pour les droits des personnes handicapées, Odile Morin avait été condamnée en première instance pour des violences contre des policiers avec armes. L'arme en question, c'était son fauteuil roulant. En fait, la cour d'appel de Toulouse a visionné enfin les vidéos qui avaient été versées au dossier il y a 4 ans et l'a relaxé hier. Plus de 4 ans après les faits donc. Donc en fait, le 30 mars 2019, hein, pendant un acte des Gilets jaunes à Toulouse, cette militante pour les droits des personnes handicapées, membre de l'association anti-validiste antisocial, mais c'est la blague est là, je me suis raté, avait fait face au canon à eau policier. Elle s'était mise en face, en fait, tout simplement. Et un agent s'était alors permis d'utiliser le joystick de mon fauteuil roulant, dit-elle, pour m'obliger à partir, et en fait, en utilisant le joystick sans savoir comment ça marche et puis à sa place, eh bien, il l'a tout simplement propulsé dans le camion de police. Bilan, elle s'en est tirée quand même, malheureusement pour elle, avec de nombreuses fractures au pied, une trentaine d'ecchymoses, et puis évidemment, elle a fait l'objet pour plainte, hein, pour violence contre des policiers avec armes. L'arme étant, on vous le disait, le fauteuil roulant. Le 6 décembre 2019, elle a été condamnée en première instance à 2 mois de prison avec sursis et interdiction de manifester d'un an. Et puis elle vient d'être relaxée en appel. Alors bien que versée au dossier de la défense depuis le début, les vidéos n'avaient pas été regardées en première, ça devient de plus en plus courant ça, c'est-à-dire que on a oublié un certain nombre de pièces qui montraient la scène n'ont pas été consultées par les magistrats lors de la procédure de départ, et elles ont été regardées là, confrontées aux faits, le magistrat a eu l'honnêteté de reconnaître que j'étais innocente dans cette affaire, dit, explique Odile Morin. Donc quand même bravo les champions qui ont compris que finalement un fauteuil roulant n'était pas une arme, mais ça dit quand même aussi quelque chose d'extrêmement courant actuellement, on en a beaucoup entendu parler, notamment autour de mobilisation écologiste, notamment à Sainte-Soline, mais aussi dans les manifestations contre la loi retraite, c'est l'explosion de ce terme complètement hallucinant, d'armes par destination où n'importe quoi peut devenir une arme, y compris en l'occurrence un fauteuil roulant qui est juste un auxiliaire qui permet de vivre en fait à des personnes qui en ont besoin. Et donc en fait ça dit quand même que c'est une bonne nouvelle, mais globalement quand même elle a été interdite de manifestation pendant un an, ça elle va pas le récupérer, elle a eu des blessures policières, ça évidemment ça a des conséquences forcément durable, et tout va mieux dans le meilleur des mondes. Un fauteuil roulant n'est pas une arme ce soir.
Vais revoir un rouminet.
Et oui, gros minet partout, justice nulle part, aurait pu dire la souris. En tout cas, il y a un animal sympathique qui a débarqué dans notre pays, c'est le chacal doré, puisque l'un d'eux a été repéré pour la première fois dans le département de la Loire-Atlantique. Alors, il avait déjà été vu en Bretagne début février, puis dans les Deux-Sèvres. C'était pas au moment de Sainte-Soline. Et puis, il fait son apparition dans le 44. L'un de ces chacals dorés a en tout cas été pris en photo fin avril par un dispositif, un piège photographique, hein, comme les utilisent les photographes animaliers, qui est destiné à au suivi de la faune sauvage. Et l'Office français de la biodiversité, chargé de centraliser les données autour de ce mammifère, a analysé l'image et confirmé qu'il s'agissait bien d'un chacal doré. Ça nous fait un chacal de plus, un petit canidé qu'on trouve en général plutôt au sud-est de l'Europe. Et ben, ça fait 3, 4, 5 ans maintenant, puisqu'on en a vu dès 2017 en Haute-Savoie qu'on le voit en France. Et plusieurs apparitions ont été signalées, mais il s'agirait d'individus isolés, ce qui ne permet pas encore de dire qu'ils vont initier des meutes ou se reproduire sur le territoire. Alors, c'est quoi un chacal doré ? C'est une sorte de chien sauvage, un peu sympa, qui peut peser une dizaine de kilos, une hauteur au garrot d'environ 50 cm, hein, donc c'est quand même, on voit, c'est gros mais émacié, avec une queue courte et une robe souvent dorée. Évidemment, c'est comme ça qu'on l'appelle le chacal doré. Moi, à partir des photos qu'on pourra vous décrire, chers auditrices et auditeurs, je dirais que c'est à peu près la version berger allemand du renard. Et donc, c'est ça, c'est un charognard qui se nourrit de petites proies, des reptiles, des amphibiens, etc. Et il n'est ni chassable ni piégeable selon la directive Habitat Faune de l'Union Européenne. Donc, si vous avez envie de tuer des animaux, n'abîmez pas ce chacal doré, c'est interdit.
Et puis on va aller du côté des États-Unis pour vous parler d'une orque, et puis bien une orque et pas un orque, comme j'ai pu vous l'annoncer au début de cette émission. Nous ne sommes pas dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est une bonne nouvelle pour Lolita, une bonne nouvelle sur quand même un fond de très très longue captivité, parce que cette orque de 56 ans va pouvoir retrouver son milieu naturel après avoir nagé plus de 50 ans dans l'aquarium de Miami. Alors c'est une semi-bonne nouvelle, je trouve quand même, parce que ça veut quand même dire qu'elle a été en captivité pendant 50 ans. Mais bon, avant de rejoindre les eaux du Pacifique, Lolita va suivre un long processus pour retrouver son habitat naturel dans les meilleures conditions. Selon la BBC, cela devrait durer 2 ans, le temps que l'orque appréhende l'environnement marin et se reconnecte acoustiquement avec les cétacés de la même espèce. Il faut quand même savoir que cet animal, il a été capturé en août 70 et revendu à l'aquarium de Miami, où elle fut à l'affiche de plusieurs spectacles en duo avec une autre orque qui est morte en 1980. Ça fait depuis 1980 qu'elle est toute seule, quoi.
40 ans.
En tout cas, qu'elle est toute seule, qu'elle n'a plus. Alors, il y a marqué dans l'article de presse que les humains pour compagnie et poursuit son showcase toute seule. On ne sait pas ce qu'elle pense de son showcase. Il faut quand même savoir que la taille de son aquarium, c'était un bassin de 26 mètres par 11. C'est vraiment tout petit.
Oui, alors qu'une orque, ça fait probablement quasiment 10 mètres de long.
C'est vraiment horrible. Et les militants du bien-être animal se battent depuis des années pour dénoncer la vétusté et réclamer la libération de Lolita. Alors, parmi ces militants, pour la petite anecdote, se trouvait la fille d'Eduardo Albor, le propriétaire du parc. Non mais en fait, cette histoire, elle est hyper déprimante. En gros, le type, il a promis à sa fille, il fait « Ok, je vais améliorer les conditions de vie de l'orque ». Et dans l'article, il a marqué « Le père n'a pas failli à ses engagements, puisqu'en 2022, Lolita a été retirée des spectacles après 52 ans de bons et loyaux services ». Bon bref, mais c'est un peu comme, vous voyez, des fois les animaux on les exploite jusqu'au bout et après on les euthanasie. Là il est un peu exploité jusqu'au bout, mais il la remet à l'eau, alors on est content. En tout cas, moi je sais pas combien de temps ça vit une orque, j'espère que ça vit méga longtemps et que Lolita va pouvoir...
C'est censé vivre très très longtemps, mais c'est censé vivre beaucoup plus longtemps en liberté, donc peut-être qu'elle va avoir une vie sympathique une deuxième fois, ou peut-être qu'ils l'ont déjà malheureusement bien amochée.
Et ben la retraite pour Lolita à 56 ans... C'est mieux que rien et on lui souhaite une bonne vie dans le Pacifique.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et une fois n'est pas coutume, on va commencer l'agenda par un événement qui se passe à Paris demain, parce qu'on avait envie de vous en parler. C'est la marche Existe Trans Inter. C'est une marche des personnes trans et intersexes et de celles et ceux qui les soutiennent. C'est assez invisibilisé pour qu'on vous la présente rapidement. Elle est appelée par un collectif Interorga qui s'occupe de son organisation depuis plus de 25 ans. Et son mot d'ordre demain, c'est mobiliser contre la loi Darmanin. Je vais vous lire un bout de leur communiqué. Depuis notre dernière marche, en France comme ailleurs, la situation des personnes trans, et attendez, j'ai eu un petit bug d'ordinateur, mais ça va revenir, et inter ne s'est pas améliorée, au contraire. Nous sommes toujours précarisés, discriminés à toutes les échelles, famille, école, santé, travail. Nous souffrons toujours d'une forte difficulté d'accès au travail et à la santé, quand, pour les transmigrants-migrantes, nous n'en sommes pas simplement exclus. Nous sommes toujours limités dans les accès à nos transitions médicales, aucune prise en compte lors des autorisations de mise sur le marché, suppression d'hormones à la vente, pénurie à répétition, interdiction d'accès aux injections d'hormones féminisantes, difficulté d'accès à une transition correcte par manque de moyens, comme aux transitions administratives par l'absence de reconnaissance de l'autodétermination. Les enfants intersexes sont toujours mutilés à la naissance. Les mineurs trans sont toujours interdits de transition administrative, médicale, voire sociale à l'école, malgré la faible circulaire Blanquer. Nous sommes toujours considérés comme des sujets psychiatriques qui ne peuvent décider pour eux-mêmes. De maigres conditions matérielles d'existence qui ne peuvent qu'aller de pire en pire, avec les politiques répressives à l'égard des enfants trans et inter, des politiques racistes contre les sans-papiers, ou encore la casse du système social. À ces difficultés s'ajoute une montée de la transphobie à l'échelle internationale. Issue des mouvances réactionnaires, un mouvement anti-trans se développe chaque année davantage. Il s'installe durablement dans les médias de tous horizons, aux portes de l'Assemblée, dans les institutions médicales et dans des groupes militants violents. Toutes ces figures démontrent d'ailleurs chaque jour leurs liens et leur rapprochement grandissant avec l'extrême droite. Au-delà de la saturation médiatique, cette campagne internationale a des conséquences concrètes catastrophiques. Outre-Atlantique, plus de 33 lois anti-trans ont été appliquées localement aux États-Unis. Après les interdictions de transition médicale pour les mineurs, sont venues celles pour les adultes et la mise en place de détransitions de force, ou encore l'enlèvement des enfants aux parents trans acceptants. Avec ça, la suppression de la couverture maladie. Les changements d'état civil et la vie quotidienne, dans le sexe choisi, sont rendus les plus impossibles. En France, comme aux États-Unis, les mouvements anti-trans ont cristallisé le débat autour de quelques paniques morales. Les trans et les drag queens seraient des prédateurs sexuels. Les trans manipuleraient les enfants par l'éducation. Les femmes trans voleraient les compétitions sportives aux femmes cis. Aucune de ces paniques médiatiques n'est fondée sur une infime preuve matérielle. Elles ne sont d'ailleurs qu'une ressucée des paniques anti-homosexuelles et anti-féministes qui les ont précédées. Après l'acceptation du mariage homosexuel, ils ont trouvé leur nouveau cheval de bataille. On vous laissera lire la fin de ce communiqué si vous avez envie sur Rebellion, mais pour vous dire que voilà, il n'y a pas forcément de marche à Lyon demain, mais que c'était un événement qu'on avait envie de relayer. Par contre, demain, il y a un rassemblement pour la visibilité de l'encéphalomyélite myalgique à Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Au moins 500 000 personnes en France sont atteintes d'encéphalomyélite myalgique, EM. C'est une maladie chronique qui est dévastatrice. Elles sont ignorées, sans prise en charge ni traitement, confinées, voire alitées sans date de sortie. Du coup, il y a un rassemblement demain pour les rendre visibles et demander droits, recherche et soins pour cette maladie chronique. Au programme, il y a un stand d'infos, des prises de parole, des distributions de fly, un champ de chaussures pour représenter les malades absents, des photos, des rencontres et un goûter. Ça appelle aussi que les proches et sympathisants puissent rejoindre et participer aux côtés des personnes malades. Pour vous dire que l'encéphalomyélite myalgique est une pathologie invalidante et dévastatrice. Elle est déclenchée généralement par une infection parfois banale, le plus souvent virale, comme la mononucléose, la grippe ou le coronavirus. L'OMS reconnaît cette maladie depuis 1969 comme une maladie neurologique. Il n'y a toujours pas de ligne directrice ni de formation médicale en France pour la traiter. Pourtant, ils et elles étaient au moins 300 000 dans ce pays avant la pandémie. Depuis, des centaines de milliers de malades Covid longs rejoignent les rangs de, désolé, j'ai du mal à, de l'encéphalomyélite myalgique. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi demain ? Vous pouvez aller à un débat à la Griffe à 15h, des anarchistes face au franquisme, rencontre débat à la librairie La Griffe autour du livre de Roald Ruiz, des anarchistes face au franquisme, c'est à 15h. Le titre parle pour lui. Si vous êtes plutôt théâtre toujours demain, qu'est-ce qui s'en passe des choses demain, vous pouvez découvrir le texte de Fausto Paravidino à 18h30 au théâtre Le Nombril du Monde. Si vous le loupez, vous pouvez d'ailleurs le retrouver le dimanche à 15h. On est à Gênes en 2021 au sommet du G8. Des manifestations altermondialistes sont violemment réprimées par la police. Ce qu'Amnesty International qualifiera de plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale donna lieu à un acquittement des forces de l'ordre, pourtant accusées d'abus de pouvoir, d'injures, de coups lors de leur procès en mars 2008. Du coup, c'est un texte qui est mis en scène autour de ce contre-sommet. Le soir, vous pourrez aller au karaoké boom de soutien à l'auto-école autogérée. Ça se retrouve à l'atelier des Canelards de 19h30 à minuit. C'est un nouveau collectif qui reprend les commandes. Ça a l'air génial. Déjà, karaoké boom. Enfin, forcément, ça a l'air génial. Du coup, vous êtes entre 19h30 à minuit à l'atelier des Canelards dans le 7e. Mais ça ne vous empêchera pas, le dimanche à 15h, d'aller au nouveau rassemblement contre l'opération coloniale de l'État français à Mayotte. On ne vous en parle pas assez, même si on le nomme souvent. L'opération Stop Wambushu. La France, son gouvernement et ses milices coloniales, police et gendarmerie n'ont toujours pas renoncé à cette grave attaque contre les politiques anti-immigration, contre le visa Balladur et contre l'impérialisme français. Unissons-nous ce dimanche aux côtés du SCUM, collectif Stop Wambushu à Mayotte, et du CDC ARA, organisatrice de ces rassemblements. Bon, bah, c'est déjà pas mal hein, pour cet agenda. On vous invite à aller lire la suite sur Rébellion.
C'est déjà pas mal.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Eh bien, bonsoir Mathieu, merci pour ton appel. Et on sait ce soir ce que veut dire ACAB, en tout cas pour ce soir. Ça veut dire auto-réduction pour les chacals dorés anarchistes et bondissants. En attendant, la bamboche continue sur Radio Canu dans quelques secondes avec votre meilleur animateur, vos meilleurs animateurs, ils sont deux, de Boom, de Noise Pollution. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
Salut!